Les sportifs, ils peuvent se foutre de ma gueule s'ils veulent. S'ils veulent. Mm. Ça me gêne pas, mais moi je me fous de la leur. Bumpy.
Bonjour, bonjour, bienvenue dans l'épatant podcast Omnisport, le podcast qui parle du sport au passé et du passé.
Alain Parc.
Bravo.
Le premier.
C'était risqué.
30 secondes de podcast. Chaud.
Le 1er septembre 2016, Colin Kaepernick, quarterback de l'équipe des 49ers de San Francisco, pose un genou à terre pendant l'hymne national américain, joué avant chaque rencontre sportive aux États-Unis. Par ce geste, Kaepernick entend protester symboliquement contre les discriminations et les violences policières envers la communauté noire américaine. Ce geste déclenchera une polémique dans toute l'Amérique, provoquant la colère du président Donald Trump, lui-même qui, avec toute l'élégance et la délicatesse qu'on lui connaît, qualifiera en pleine conférence de presse Kaepernick de fils de pute. Ce geste n'est évidemment pas sans rappeler les fameux points levés de Tommy Smith et John Carlos lors de la remise des médailles de l'épreuve du 200 mètres des Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Presque 50 ans séparent les deux événements, mais rien ne semble avoir véritablement changé tant leur ressemblance est frappante. Ce mois-ci, dans EPO, nous parlons de 50 ans de lutte pour les droits civiques dans le sport américain. Et comme il vaut mieux être bien accompagné que seul, nous avons l'honneur de recevoir un magnifique public, déjà.
Bravo !
Bravo !
Bienvenue. Bienvenue à l'espace culturel de la Fédération Française de l'UNESCO. Et comme chaque mois, j'ai l'immense joie de retrouver mes fidèles camarades Younes.
Bonsoir à tous.
Sarah.
Salut Mickaël, bonjour tout le monde.
Olivier.
Bonsoir Mickaël, bonsoir tout le monde.
Et Chloé.
Bonsoir, salut les gens.
Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on va s'écouter une petite arche.
Les États-Unis, justement, qui se déchirent sur le cas Kaepernick. Colin Kaepernick, 28 ans, quarterback des 49ers, l'équipe de football américain de San Francisco, sportif et militant. Il refuse de se lever pendant l'hymne national, un geste politique pour dénoncer l'oppression des Noirs américains, un geste qui fait polémique dans un pays très attaché aux symboles de la nation. Laurence Nahon.
L'hymne américain retentit. Comme le veut la tradition, les équipes sont debout, regard tourné vers la bannière étoilée. Mais un joueur de football reste volontairement assis. Il s'appelle Colin Kaepernick. Par ce geste, le quarterback de 28 ans dénonce les discriminations raciales et prend la défense des Noirs américains tombés sous les balles de la police.
Je continuerai à rester assis pour soutenir les personnes opprimées. Il y a des choses qui doivent changer. Et quand je sentirai que les choses ont changé, que ce drapeau est redevenu ce qu'il était et que ce pays traite les gens comme il se doit, alors je me relèverai.
Eh oui, Colin. Alors, je vais pas faire un tour de table pour demander ce que vous pensez de Kaepernick et du football américain, puisqu'on n'y connaît rien en football américain. Et justement, Colin Kaepernick, en France, on ne le connaît pas vraiment. Enfin, en tout cas, pas avant cet événement. Et je précise, c'est un extrait du journal télévisé de TV5 Monde. Vous savez, c'est la chaîne qu'on regarde qu'à l'hôtel quand on est à l'étranger.
Mais j'ai cru reconnaître la voix de Laurent Delahousse.
Voilà, sauf Younes, évidemment. Alors, c'est qui ce monsieur Colin Kaepernick ? Est-ce que vous pouvez me le présenter un petit peu ?
Ben, il est né la même année que moi.
Wow. Et de moi
donc
aussi.
Voilà, ouais. Ça le présente bien. Et... En 1987.
Belle année.
Il naît, je ne sais plus, l'un de ses parents est noir et l'autre de ses parents
son
est blanc.
Son papa est noir et sa maman voilà. Est blanche.
De naissance, mais en fait, il va être adopté par un couple de blancs. Pour remettre un peu son enfance, et il va grandir dans une petite ville où il y a assez peu de noirs.
Oui, dans le Wisconsin.
Ouais. Oui, un état qu'on connaît bien.
Oui, je suis bilingue, je sais.
Et effectivement, il habite à Fond du Lac, une oui. Petite ville. En français, dans le texte, hein, faut ouais, croire.
C'est pas traduit, c'est comme ça.
Ouais, c'est Fond du Lac.
C'est Fond du Lac, ouais. Son enfance est un peu difficile parce que c'est l'un des seuls noirs et ouais, forcément.
Enfin, il est difficile, c'est pas le cadre social dans lequel il évolue, mais
la
c'est
stigmatisation,
le fait qu'il soit isolé, en fait, un petit peu dans le seul, en fait.
Et peut-être pour vraiment bien poser le personnage et comprendre aussi tout son action derrière, c'est. C'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses, c'est un très bon élève, il est studieux, etc. Il rentrera à l'université par le football, mais ça reste quelqu'un qui s'intéresse à plein de choses.
Rentrer à l'université par le football, ça fait bizarre. Comme. alors, il est sélectionné par les San Francisco 49ers en 2011. Un peu à la surprise générale, il devient quarterback titulaire après la blessure d'Alex Smith, qui est en fait...
était visiblement meilleur, mais bon, il prend sa relève pendant la saison 2012 et il va même jusqu'au Super Bowl.
Ouais,
ouais, il qualifie le Super Bowl. Alors, juste quand même pour
qu'est-ce
préciser.
Qu'est-ce que c'est le Super Bowl, peut-être pour ceux qui n'ont pas écouté notre épisode sur le
là où il y a Beyoncé.
C'est la cérémonie annuelle des Américains. Et donc, c'est,
c'est ça, c'est tout. Voilà. C'est la cérémonie annuelle des Américains. Voilà. Voilà.
Merci.
Alors, le Super Bowl dans Wikipédia, c'est cérémonie annuelle des Américains. C'est la définition.
Non, c'est surtout un gros show, c'est un énorme show de sponsors et, et donc c'est une grosse fête. Voilà.
Bah, c'est sans surtout la fête.
On dirait qu'il parle d'une fête foraine.
C'est la foire du trône. En
voilà, il y a la pêche au canard, il y a le chamboultou.
Beyoncé au chamboultou.
Donc c'est la finale du championnat de football américain. Voilà.
Juste pour préciser, ça. Juste pour remettre un petit peu dans le contexte sportif, les 49ers de San Francisco, c'est quand même 5 Super Bowls, ce qui est beaucoup en fait dans le championnat américain.
Ouais.
C'est la deuxième équipe la plus titrée à égalité avec les Cowboys de Dallas, derrière les Steelers de Pittsburgh et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui ont gagné leur 6e titre cette année.
C'est surtout une grosse équipe des années 70. Plus
les années 80.
80, pardon. Ouais.
Et toujours des conneries.
ce Super Bowl va être perdu par Kaepernick et son équipe, sachant que Kaepernick a fait quand même une très bonne saison à ce moment-là, mais ils vont malheureusement perdre la finale.
J'ai le score final.
Moi aussi.
Moi aussi.
Alors arrête de te la péter.
On va la faire deviner.
Est-ce que quelqu'un a le score dans la salle?
Alors,
ah bon, bravo.
Non, une hypothèse, non, peut-être. Bon, il y avait 31-34.
Voilà.
Une perte de 3 points.
Et c'est effectivement le Super Bowl où il y a Beyoncé à la mi-temps. Voilà, moi, j'ai vu que ça.
Alors, cette année, c'était l'enfer. Hein. C'était Maroon 5, c'était dur. Hein.
Cette année-là?
Ah oui, oui, cette année.
Bon, on va en parler, en fait.
On va en parler, d'ailleurs. C'est intéressant.
Boycotté,
de Maroon 5
Alors, le vendredi 26 août 2016, hein, donc il y a plus de 2 ans, presque 3 ans, lors du match de préparation qui oppose les 49ers aux Green Bay Packers, Kaepernick ne va pas se lever pendant l'hymne national. Vous savez qu'aux États-Unis, ils jouent l'hymne national avant chaque rencontre sportive, ce qui peut paraître un peu étrange ici.
Surtout dans les écoles aussi, le matin.
Ah bah oui, partout.
Ouais. Au petit-déj, à midi.
Ouais, exactement, ouais.
Avant de faire la chose.
Donc c'est sacré, hein, en fait. Hein.
Ah bah oui, c'est un...
Merci.
Alors, après discussion avec un de ses collègues qui s'appelle Ned Boyer.
Il s'appelle comment le collègue?
Boyer.
Ah, okay.
Ned Boyer. Il lui conseille de mettre un genou à terre. C'est un ancien béret vert, ce gars-là, qui joue, qui joue aussi aux Seahawks de Seattle. Et qui lui dit que c'est une posture qui sera peut-être perçue comme un peu plus respectueuse. Hein. C'est une espèce de marque de retrait, voire de respect.
Mais sachant qu'à la base, c'est la première fois que Kaepernick va se manifester contre. Enfin, pour manifester un petit peu son rejet, pas des États-Unis, mais du coup de toute la violence policière. Et c'est pas encore tellement un drame ou un scandale à l'époque.
Non,
c'est la troisième fois en fait que ça va vraiment être remarqué.
Bah, ça va être remarqué par les médias. Et même la première fois où il reste assis, il y a son club qui le défend, il y a même la NFL, donc la Ligue de football américain, qui va dire chacun est libre. Et en fait, j'ai l'impression presque que de décider de mettre un genou à terre va finalement plus créer le scandale que quand il était resté juste assis.
Bah, parce qu'il est moins discret, du coup.
Et bah, parce qu'on le voit mieux. Ouais.
Voilà, exactement. Donc le 1er septembre 2016, cette fois-ci en ouverture de la saison NFL, c'est contre les LA Rams, les derniers finalistes d'ailleurs du Super Bowl, qu'il va poser un genou à terre, ce qui va créer une certaine forme de scandale. Alors pourquoi ce geste?
Ben, le contexte explique peut-être un peu ce geste. Alors, on a juste avant, on a fait la première fois un noir à la Maison Blanche, et puis après, on a Donald Trump qui succède à Barack Obama.
Pas encore. Nous sommes justement en pleine élection présidentielle.
Oui, c'est en pleine élection présidentielle. Mais c'est juste avant, donc on a Barack Obama, et en même temps que Barack Obama est à la Maison Blanche, on a énormément de bavures policières. Vis-à-vis, enfin, en direction de la communauté noire. Et c'est forcément des scandales, puisque les policiers sont très souvent relaxés.
Oui, justement, George Zimmerman, qui est un vigile, voilà, qui en 2012, tue un dénommé Trevor Martin, un adolescent de 17 ans, qui est relaxé à ce procès. C'est d'ailleurs ce qui va amener le Black Lives Matter. Dis-moi, c'est comment ça se dit en anglais?
Fond du lac. Alors effectivement, il est acquitté, et pour la petite anecdote, il va vendre quelques années plus tard son arme.
Son arme, ouais.
Pour 250 000 dollars, je crois.
Aux enchères.
En tout cas, le geste de Kaepernick, effectivement, il sert d'abord dans ce contexte de violence policière contre les populations noires, mais je pense aussi qu'on peut dire plus largement contre la discrimination ou l'oppression que peut encore subir les Noirs aux États-Unis.
Il a cette phrase qui dit je ne peux pas être fier devant le drapeau d'un pays qui opprime les Noirs et les gens de couleur. Ce problème dépasse le football américain. Il serait égoïste de ma part de détourner les yeux. Il y a des gens qui meurent dans les rues et d'autres qui tuent et qui échappent à des punitions. Donc voilà, il revendique de toute façon son geste.
Ce qui est hyper impressionnant, c'est que du coup, par un décompte tenu par le Times, à cette époque-là, de janvier jusqu'à août 2016, pardon, je connais pas les dates, tout va bien, il y a déjà 709 personnes qui sont mortes, 700 personnes noires qui sont mortes.
Est-ce que t'es sûr que c'est noir? Je pense
non,
que c'est le total.
Bon, de toute façon, une grande majorité.
Le total des bases
de total. J'arrête de parler.
Ce qui est sûr, c'est que le chiffre que j'ai, c'est que c'est 23% des bavures policières, enfin 23% des morts tués par la police sont des personnes noires.
Oui, alors, c'est pas du tout 709.
Capernic reçoit quand même de nombreux soutiens, évidemment. Ce geste va être répété par de nombreux joueurs de son équipe, déjà, et aussi d'autres équipes de NFL.
Et ça va même se propager un peu
dans d'autres sports,
NBA.
En
basket,
par une joueuse de soccer.
De soccer, oui.
Megan Rapinoe.
Oui.
Donc, il va quand même avoir des soutiens. Il va quand même marquer aussi une nouvelle ère, parce qu'il y a beaucoup de sportifs qui vont reprendre son geste, et y compris encore maintenant.
Ouais, oui, encore aujourd'hui.
Ça va être repris comme un symbole, ouais, bien sûr.
Alors, pour le côté un petit peu marketing et business, la vente du maillot floqué du numéro 7 de Kaepernick explose. Il s'en vend autant pendant la première semaine de septembre que pendant les 8 mois précédents. Donc, c'est pas mal. Bon, ouais. Et le joueur promet quand même de verser les bénéfices aux organisations qui œuvrent à améliorer les relations entre la police et les jeunes dans les quartiers noirs.
Bah, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que ce geste, en fait, il va très violemment diviser les États-Unis.
Ouais.
Plutôt soutenu du côté de la population noire, globalement, et du côté de la population blanche, ça va être beaucoup plus divisé, notamment chez les anciens combattants, pour qui c'est une insulte au drapeau américain, donc à la nation américaine, à ce qu'ils ont fait, qu'ils sont allés combattre pour la nation. Et donc, on va voir des maillots de Kaepernick brûlés dans des barbecues sur des vidéos mises en ligne par des anciens combattants.
Ça va être perçu comme irrespectueux, en fait, plus que...
Ouais,
alors,
c'est
il faut préciser quand même qu'il y a une espèce de crispation sur l'hymne et le drapeau américain.
Exactement.
Pour la petite anecdote, pour voir à quel point c'est hallucinant, Gabby Douglas, c'était une gymnaste médaillée des Jeux de Rio, qui avait oublié de mettre la main sur le cœur pendant l'hymne, elle était obligée de s'en excuser quand même publiquement. Son geste. Donc bon, ça, effectivement, il y a beaucoup de conservateurs qui sont très en colère, qui réclament le renvoi de Kaepernick par son club des 49ers.
Ouais, c'est dire que son geste est très fort, en fait.
Oui. Oui. Dont d'ailleurs Donald Trump, dont on a parlé tout à l'heure, qui va l'insulter sur Twitter.
Son équipe le soutient. Qui dit il y a un communiqué qui est sorti le dimanche 28 août. Il dit: en respectant des principes comme la liberté de religion et la liberté d'expression, nous reconnaissons le droit à tout individu de choisir de partager ou non à la célébration de notre hymne national. Donc il est quand même soutenu par son équipe,
mais pourtant il va pas renouveler son contrat à la fin de l'année. Enfin, d'ailleurs il a on la possibilité de l'interrompre.
On va expliquer ça. Alors, un petit point sur le football américain quand même, parce qu'il faut savoir qu'il y a suite à ces manifestations, il y a une chute d'audience de 18% en moins de 2 ans suite à la polémique.
Ça fait 1,6 million de spectateurs en moins. Ouais. Donc les audiences sont comme Stéphane en berne.
Alors, comment on l'explique suite à cette magnifique blague? Il y a des applaudissements devant.
Ah, assez timide, hein. Ah, quand même.
Non, mais l'une des explications, notamment, c'est que, en fait, si les joueurs de football américain sont en grande majorité noirs, quasiment 70%, le public, lui, est à 77% un public blanc. Et donc, il y a des gens vraiment, en fait, qui vont se détourner de la ligue parce qu'ils estiment qu'il y a affront au drapeau et vont tout simplement arrêter de regarder. Donc, pour la NFL, en fait, c'est un vrai enjeu, notamment un enjeu financier, puisque moins de spectateurs, moins d'argent pour les pubs.
Ça répercute jusqu'à cette année avec le spectacle, justement, où personne ne voulait chanter à la mi-temps au Super Bowl.
Pour ça, ils ont trouvé Maroon 5.
Alors,
merci, exactement.
Ouais, ils ont trouvé que les Maroon 5.
Mais je sais pas pourquoi tout le monde est si méchant avec Maroon 5.
J'en étais sûr. Je savais qu'à un moment donné, on allait en parler.
Sarah qui peut les défendre.
Vas-y, Sarah.
Alors, il y a un certain nombre d'artistes, effectivement, en soutien à Kaepernick. Il faut préciser, on va en revenir dessus, mais Kaepernick, en fait, est parti des 49ers
en agent libre.
Oui, en agent libre.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Et en fait, il a rompu son contrat. Enfin,
c'est de l'inter.
Pour des raisons sportives.
Voilà, un peu en inter, voilà. Mais c'est ça.
Sauf qu'il a pas retrouvé de club, il a pas retrouvé d'équipe. Ça fait deux ans qu'il.
Enfin, pour des raisons sportives, c'est aussi les 49ers qui, de toute façon, voulaient changer de politique sportive.
Voilà, après,
il coûtait un bras, et du coup, ils l'ont aussi laissé partir.
Oui. Sachant qu'il était plus titulaire depuis 2015. Quand même, donc avant finalement la polémique. En pleine campagne présidentielle, le candidat hein, à l'époque, Donald Trump, s'en mêle évidemment, il fait de la récup politique et juge que le joueur ferait mieux de trouver un autre pays. Hein. L'un de ses lieutenants, un républicain de l'Iowa, Steve King, l'accuse même de sympathie djihadiste. Affirmant qu'il avait beaucoup changé depuis qu'il sort avec une musulmane quand même hein.
Ouais.
Sa compagne Nessa Diab qui est animatrice radio
qui
c'est
est animatrice radio. Alors évidemment j'ai ce petit discours fort sympathique de monsieur Trump, écoutez c'est sympa.
N'aimeriez-vous pas voir un de ces dirigeants de la Ligue nationale de football dire à ceux qui manquent de respect au drapeau, sortez-moi ce fils de pute du terrain, fous le camp, tu es viré.
Sympa.
Voilà. Un mec bien.
Non, alors, mais peut-être, on l'a pas dit au début, on aurait peut-être dû le dire quand même que ce geste de Kaepernick, il est très fort parce que Kaepernick est aussi quand même vraiment une superstar au moment où il le fait. Il était monté en puissance, il a fait la finale du Super Bowl, ouais. On l'a vu dans des pubs de McDo, des pubs pour des casques audio, etc. C'est vraiment une superstar à l'époque.
Ouais, c'est pas un mauvais joueur qui essayait de se faire remarquer avec un geste.
Il a fait une pub pour le Coran Marsanais aussi.
Elle était bien.
Il était sur l'abribus à Kétini. Alors le discours de Trump qu'on vient d'entendre date du 22 septembre 2017, donc c'est quand même très loin après les premières manifestations, mais en fait la polémique dure très longtemps hein, finalement. Ouais. J'adore ce tweet de la mère de Kaepernick, vous avez vu
qui lui répond parce que donc il lui dit fils de pute et la maman lui dit figure-toi que ça fait de moi une pute fière comme moi.
Splendide, ouais. C'est
beau. Alors on l'a dit, en mars 2017, Kaepernick quitte les 49ers de San Francisco. Il était plus titulaire depuis 2015, depuis le départ de l'entraîneur Jim Harbaugh. Et en septembre 2017, il devient l'égérie d'une grande marque de vêtements sportifs.
Eh oui.
Avec une virgule comme logo.
Ulsport.
Kappa.
Kappa.
Patrick. Patrick. Non, il le récupère un petit peu comme un
c'est
symbole.
C'est Nike.
Et il le récupère un peu comme une icône. Et forcément, une marque qui a toujours travaillé un peu en dehors des terrains pour pouvoir montrer un peu l'état d'esprit au-delà du sport, c'était du pain béni aussi pour elle. Donc,
avec un
lui,
slogan qui est vraiment très puissant, parce que c'est croire en quelque chose, même si cela signifie
tout sacrifier.
Sachant que depuis la fin de l'année 2016, Kaepernick n'avait quasiment jamais repris la parole en public.
Ouais,
donc,
il est
c'est
très
aussi
discret.
Un peu un retour médiatique très fort. Et ça va avoir, ça va avoir un vrai impact aussi sur.
Mais le voilà.
Certains lui auraient reproché presque en fait d'être un peu trop silencieux et finalement lui le considère un peu aussi comme une stratégie de moins parler et de finalement impacter un peu plus quand.
Exactement comme son geste qui se voulait en fait très pacifique.
Silencieux. Ouais.
Et qui finalement a fait parler tout le monde.
Exact. Ouais.
Alors on rappelle en fait histoire avec une animatrice radio donc je pense qu'il est suffisamment. Fait pour se méfier des médias. Ouais. Alors la campagne de Nike ravive la colère des conservateurs. Nouvelle vague de vidéos sur les réseaux sociaux hein, après les mecs qui brûlent le maillot de Kaepernick. Là maintenant les gens brûlent leur paire de chaussures Nike
ou des chaussettes. Non, ils étaient vraiment très dissidents. On les voyait sur un parc et ensuite ils agitaient leur drapeau américain. C'était waouh,
c'est bien.
Amazing.
Encore un peu, ils vont finir par se brûler eux-mêmes. Hein. C'est une bonne stratégie. Hein.
Il y avait une anecdote à l'époque où beaucoup se rabattaient.
Tu parlais des chaussettes.
Ouais, c'est ça. Je peux maintenant ou c'est trop tôt, non ?
On peut aller si tu veux.
D'accord. Non, beaucoup se rabattaient sur New Balance parce que New Balance, en actionnariat, ils ont monsieur Donald Trump donc en grande partie. Donc beaucoup de gens se rabattaient et faisaient des.
Mais il faut savoir, moi j'ai vu une anecdote intéressante, pourquoi Trump est aussi. À part que c'est un gros con, pourquoi il est aussi agressif avec Kaepernick, c'est aussi qu'il y a 7 présidents des 32 clubs de la NFL, de la ligue de football américain, qui lui ont donné du pognon pour sa campagne.
Ouais.
Donc, ceci explique cela.
Pour dire, reparler un peu. En fait, le football américain, c'est un petit peu la continuité de la ségrégation. Hein, c'est-à-dire que, déjà sur le terrain, il faut savoir qu'il y a une majorité noire, hein, 67%, on a dit à peu près, mais ils occupent des postes qui requièrent des qualités physiques et de vitesse, alors que les postes considérés comme on va dire un peu plus stratégique
comme quarterback,
voilà, comme le quarterback par exemple,
le poste de Kaepernick
sont occupés majoritairement par des blancs. Il faut
même
savoir
si
aucun président,
la tendance évolue un tout petit peu quand même, mais ça reste
il faut préciser que la majorité, enfin la totalité des présidents d'équipes de football américain sont blancs. Aucun noir. Et je crois d'ailleurs, à vérifier, je suis pas tout à fait sûr, peut-être que quelqu'un dans la salle pourra nous confirmer ou pas, je crois que la seule franchise de foot de sport US qui appartient à un noir, c'est les Charlotte Hornets de Jordan.
Non, il y a aussi Jay-Z qui possède
Les Nets.
Les Nets, ouais, je crois, ouais.
D'accord.
Enfin bref, voilà.
En tout cas,
c'est une minorité.
Ouais. En tout cas, la campagne de pub Nike, il y a aussi d'autres sportifs, donc comme Serena Williams,
oui.
LeBron James, etc., qui la font. Et quand même, enfin moi, ça m'a, enfin je trouve que les chiffres sont hyper, enfin impressionnants. Enfin Nike recule en bourse au moment où ça se lance. Oui. Donc c'est quand même fou l'impact que ça peut avoir. Finalement, je crois après ça va remonter, ses ventes vont plutôt remonter en pic.
Plus 15% en un semaine.
15% après finalement, mais ça, voilà, enfin c'est vraiment
en fait,
c'est pas anodin, quoi.
Il y a une double impact, en fait. Il y a l'impact américain et sur le territoire américain. Donc forcément, les résultats en bourse tout de suite descendent des dévis. Et quand la résonance se fait mondiale, bah, finalement, ça remonte, puisque finalement, ça a un impact positif après mondialement, quoi.
Oui, parce qu'il y a toute une communauté qui se reconnaît dans ce slogan.
Exact.
Alors, ne soyons pas dupes, hein, ne vous précipitez pas à la sortie de ce podcast pour vous acheter une paire de Nike.
Oui.
C'est quand même largement marketing.
Oui, c'est quand même fait par des petits Chinois pas payés.
Oui, voilà.
Aussi.
Alors, Kaepernick, en novembre 2007, porte plainte, puisque ça fait plusieurs mois qu'il n'a pas d'équipe. Il porte plainte contre la NFL pour collusion. Qu'est-ce que c'est
C'est un rapprochement.
Il cherche une. Non, mais c'est une entente.
C'est une entente. C'est une double entente, ouais.
Il estime en fait qu'il y a une entente entre tous les clubs pour ne pas le reprendre.
Voilà
tout
c'est
simplement.
Oui, il accuse les 32 équipes, ouais, de faire ami en disant, eh viens, on le reprend pas lui parce que on le reprend pas.
Très bien.
Merci pour cette précision.
Alors, il est en procès. Alors, récemment, le 15 février 2019, Kaepernick et la NFL concluent un accord à l'amiable. J'allais dire qu'il pèse pas lourd, c'est quand même 10 millions de dollars.
Alors, l'accord, c'est 60 à 80 millions, mais en fait, lui ne va en toucher que 10 parce qu'il y a les frais d'avocat. Je pense que les avocats, eux, ont bien joué.
C'est l'avocat de Michael Jackson, d'ailleurs.
Ah oui, bien joué.
Ouais. Ah bah voilà, les pompiers arrivent. Je vous l'avais
dit. On va pouvoir maîtriser cet incendie.
C'est bon, Younes. tu vas pouvoir y aller, Younes. Ils t'attendent déjà.
Ah oui, je vais chercher.
Alors oui, donc 10 millions de dollars, c'est pas mal, sachant qu'il en gagnait 12 quand il était joueur. Alors c'est un chiffre qui peut paraître énorme, mais même si on prend, j'ai aimé ce calcul, même si on prend 100 millions de dollars, si jamais il touchait 100 millions de dollars, ça fait que 1,5 million de dollars par propriétaire d'une équipe de NFL, ce qui est rien pour eux.
Ce qui est rien, oui. C'est en fait la NFL, en faisant en acceptant de payer, achète le silence aussi.
Achète le silence,
la paix. Et en l'occurrence, il n'y a plus depuis 2007 et depuis 2017.
Surtout, ils sauvent le championnat.
Ils sauvent le championnat.
De moins en moins, enfin moins suivi en tout cas. Et pour pouvoir refaire du gros pognon. Mais le dernier Super Bowl, c'est con, c'était nul.
À cause de Maroon 5.
Entre autres de Maroon 5.
En partie.
Mais ils savent pas jouer. On leur a dit de pas jouer.
Alors, donc ce geste n'est pas sans rappeler évidemment un autre geste qui a lieu 50 ans plus tôt.
Oui. Il y a des illustrations derrière vous.
Oui,
hein,
voilà.
On passe de la droite, pour vous de la gauche.
C'est le monsieur au centre, là, hein, oui. Avec ses grands cheveux.
Oui.
Et puis, ça, c'est pas du tout Kaepernick, par exemple. Voilà.
Alors, il aime dire Kaepernick. Hein,
il insiste là-dessus. Ouais. Bon, ça lui fait plaisir.
Alors, effectivement, lors des Jeux Olympiques de Mexico de 1968, deux athlètes noirs, Tommy Smith et John Carlos, vont être célèbres, immortalisé par un photographe, je sais plus son nom d'ailleurs, on le retrouvera.
Robert Doisneau.
Non, parce que c'est en noir et blanc, c'est pour ça que tu dis ça.
Oui.
C'est une photo de John Dominis.
Merci Sarah.
Voilà. Merci Sarah.
Et c'est sûrement une photo que vous avez peut-être tous eu dans vos livres d'histoire à l'école.
Oui, enfin, moi hier matin, du coup, au lycée. On a révisé.
Alors Younes, le lycée c'était dans les années 20.
Ouais. Il n'y était pas encore la photo.
Il n'y avait pas de lycée à mon époque.
Alors, Younes, t'as connu toi.
C'était le cours élémentaire.
Une classe unique pour tout le village.
Une classe unique pour tout le village.
Alors, qui sont Tommy Smith et John Carlos? Est-ce qu'on peut peut-être les présenter avant de rentrer dans l'événement?
Oui.
Non. Non.
Alors, Tommy Smith et John Carlos sont des athlètes qui courent principalement sur 200 mètres, bien que Tommy Smith soit aussi très très fort sur 400 mètres. Tommy Smith est clairement, à l'époque, l'un des plus grands athlètes du monde en termes de performance. Il abat les records les uns après les autres, notamment les records universitaires. Et John Carlos...
Hein. 13 records qui vont tomber, hein.
Oui, bah, moi la parole, il n'y a aucun souci. voilà, donc ces deux, ils arrivent aux Jeux Olympiques de Mexico, dont on va parler dans quelques instants, en étant les deux grands favoris sur 200 mètres. Voilà, alors, quoi d'autre ?
Ils sont, bah, tous les deux se rencontrent à la San José State University.
San José.
C'est la San José.
Hola. Espagnol et anglais en même temps.
Hola Tommy, hola Carlos.
Ils étudient la sociologie et ils vont rencontrer quelqu'un qui s'appelle Harry.
Il faut de la tauromachie aussi, du coup.
Ils vont rencontrer
Harry.
Une
très bonne paella.
LV2.
Bon, et oh. Pardon, ils vont rencontrer Harry Edwards, qui est noir lui aussi et qui est un sociologue, notamment un sociologue aussi du sport. Ouais. C'est un monsieur dont on aurait même pu parler en parlant de Kaepernick parce qu'il il l'inspire et il est aussi un des mentors de Kaepernick.
Voilà, il va
Il est encore présent.
Et il est encore présent aujourd'hui. Ouais. Et c'est vraiment quelqu'un qui croit que le sport peut être un vecteur pour faire bouger la société, notamment sur les questions de discrimination. Et c'est avec lui, en fait, qu'ils vont commencer à penser à ce mouvement qui va se prolonger jusqu'à ce fameux podium.
Petite parenthèse, il a un peu le... C'est quelqu'un qui a du charisme, mais c'est aussi une sorte de prêcheur.
Comme toi, Younes.
Merci. Arrête, tu me fais rougir. Non, c'est quelqu'un qui a du charisme, qui est un prêcheur, en fait, un peu à l'américaine, et qui, effectivement, influence énormément de monde.
Un prêcheur, celui qui prêche des poissons, du coup.
Oui, c'est ça.
Oh là là. Ouais. Vous savez, alors, vous l'encouragez quand vous faites ça.
Alors Edwards, pour la petite anecdote, c'était aussi un athlète, en fait, avant d'être sociologue. Il a eu des propositions à plusieurs dizaines de milliers de dollars par des équipes de NFL à l'époque dans les 60. Il a refusé pour se consacrer à la sociologie. Et pour la petite anecdote, il a annoncé à son père, qui comprenait pas pourquoi il refusait ses contrats qui rapportait beaucoup de pognon.
Mirobolant.
Toujours les bons adjectifs. Yes. Et il a dit non, je veux me consacrer, je veux être sociologue. Et son père lui a dit quoi, sociologue comme Fidel Castro? Mais en fait, il confondait avec socialiste. Voilà.
Ça, c'était l'anecdote. C'est vrai, assez
c'est une vraie anecdote.
Et c'est une vraie anecdote.
C'est une vraie anecdote. Alors, le 7 mai 66, Tommy Smith établit ses premiers records du monde, hein, donc, comme tu l'as dit. Et il court en le 200. Alors, c'est
ouais,
200
yards.
201 mètres 17.
Voilà, merci. Merci Sarah.
Je me fais de tête comme ça là.
Oui.
En 19 secondes 5, hein, soit une vitesse moyenne de 37 km/h.
C'est ce que t'as fait Olivier pour aller chercher le 4 <Oui. rire>
D'ailleurs je suis désolé les filles,
c'est bien, ça fait vestiaire.
Oui.
Petit fumet là. Et il va aligner les records du monde. Et le 11 juin 66 il bat le record du monde du 200 Vaillard en virage en 20 secondes. Petit accro quand même, il se fait battre par John Carlos, justement,
oui,
peu avant les Jeux Olympiques.
Oui. Tiens, qui c'est John Carlos?
Qui c'est? Ah oui,
on parlait un petit peu.
Oui, donc, la personne avec qui il s'entraîne, hein, ils s'entraînent tous les deux au même endroit, donc tu l'as dit, à la San José Universitat. Et John Carlos le bat pour la sélection des Jeux Olympiques. Ouais. Il fait un joli score de 19 secondes 92, donc un tout petit peu plus que ce que j'ai fait pour aller chercher les câbles. Voilà. Et ce record n'est pas, d'ailleurs, ce record n'est pas homologué parce qu'à ce moment-là, John Carlos court avec des chaussures à pointe. Voilà, il avait des chaussures
qui grippent.
Ça voilà. Veut dire quoi à pointe?
Il avait
des espèces de mini crampons sous la chaussure. D'accord. Qui permettaient une meilleure accroche.
Moi, au début,
sur le
j'ai
terrain.
J'ai cru que ça était pointue la chaussure.
Avec une clochette.
C'est un cow-boy en fait.
C'est poétique, Sarah, j'adore.
Quand il courait, il y avait la poussière comme ça.
Alors, Tommy Smith est le grand favori de l'épreuve du 200 mètres au JO de Mexico. Oui. Le duel entre les deux hommes est très attendu. D'autant que John Carlos est champion en titre du 200 mètres au jeu panaméricain. De 67. Alors en fait, je suis désolé, ma curiosité s'est arrêtée là, je sais pas ce que c'est.
Bah, c'est des jeux entre le Panama et les Américains.
je pense que ça
sera plus ce soir. Voilà.
Voilà. Je pense que c'est entre les pays d'Amérique.
Oui.
Ah oui, des Amériques.
Des Amériques.
Ah oui, ça doit être ça, les pays
d'Amérique. Tout ce qui est Amérique centrale, avec Trinidad, Tobago.
Panama.
Panama.
Nicaragua.
Les Américains, enfin tout ça, quoi.
Par exemple.
Alors, Harry Edwards est à l'origine d'une action. Hein. Il crée le Olympic Project for Human. J'ai oublié quelque chose.
Non, j'avais peur que tu n'aies pas envie de le prononcer. Du coup, j'étais prête à le prononcer.
Ah, vas-y.
Alors, vas-y.
Vas-y, dis-nous
lance
ce que
toi.
C'est.
The Olympic Project for Human Rights.
Wow, wow.
Franchement, alors, c'est pas mieux que San José. Hein.
Nous, on dira sobrement OPHR, évidemment. Hein, donc
on aime bien en France hein, les OPHR.
OPHR.
Les SNCF, tout ça. Ouais.
Oui, on aime bien.
C'était ma petite parenthèse. Donc,
qu'est-ce qu'il dit, ce monsieur? On peut arrêter le.
Ça, il laisse. Ah, on lui a pas donné son bouillon. Ah. C'est l'heure de son bouillon.
Ah oui, le bouillon.
Et donc, ce projet a pour but de lutter contre la ségrégation, contre le racisme, dont font encore l'objet des Noirs. Juste pour dire à quoi ça sert.
Et surtout,
on va voir, mais notamment en 68, ils vont avoir en fait ils vont appeler au boycott. Oui. Ils auront 4 revendications qu'on peut développer éventuellement, que l'Afrique du Sud et la Rhodésie ne participent pas à cause de leurs conditions en fait de dominance blanche. De rendre son titre à Mohamed Ali, parce qu'en fait en 67, Mohamed Ali a perdu son titre. Pour ne pas faire, parce qu'il ne voulait pas faire en fait son service militaire pour aller au Vietnam, et il a été destitué à cause de ça. Waouh, faut que je parle dans le micro. la destitution d'Avery Brundage, dont on va parler.
Le président.
Le président du CIO, du Comité Olympique.
C'est mon Pokémon préféré.
Le big boss.
Il est sympa ce gars-là. Hein. Il a l'air,
Vous allez voir, vous allez l'adorer.
Et enfin, de demander de l'embauche de plus d'entraîneurs adjoints afro-américains.
Et des frites à la cantine au village olympique.
Qui sont la seule.
Quelle est la première condition et la seule qu'ils auront obtenue.
Non, c'est pas vrai. Ils vont obtenir aussi la non-participation de l'Afrique du Sud.
Est-ce que ça me semble important de faire là le point historique, peut-être?
Alors, non, juste.
Non,
juste
pas du tout. D'accord, très bien. Non,
juste avant, une petite.
C'est Mickaël qui choisit. Hein.
Ouais, c'est moi qui lis.
T'as essayé de décider, c'est ça?
Non, non, je suis allé. Je suis vraiment cadre.
T'as cru que c'était ton podcast?
Non, non, pardon.
Merci.
Faut savoir que Martin Luther King soutient l'OPHR dans le projet de boycott des JO de Mexico et que en février 1968, 32 pays africains menacent de ne pas participer aux Jeux Olympiques si l'Afrique du Sud est invitée. Et au final, le 23 avril 68, c'est très précis, le CIO annonce que l'Afrique du Sud est exclue des Jeux Olympiques. Voilà. Du coup, les athlètes noirs américains décident de participer à ces Jeux Olympiques.
Oui, parce que
finalement, on verra plutôt une bonne idée.
Ça les a mis aussi en fait, de sacrifier 4 ans de travail pour ne pas en fait, se présenter, tout simplement.
Oui.
C'est tout pour moi, merci Paris.
Oui, merci.
Donc oui, peut-être pour revenir un peu sur...
Voilà, sur le contexte politique peut-être.
Sur le contexte...
Ah, tu veux maintenant le faire. Parce que Sarah le demande.
C'est
donc
maintenant.
Incroyable.
Dans les années 50, il y a un certain nombre de lois qui sont passées, qui ont aboli théoriquement la ségrégation qui avait cours donc, dans les États du Sud des États-Unis. Mais dans les faits, la situation des Noirs reste encore plus compliquée que celle des Blancs. Le racisme est encore très présent. Et en plus, dans les années 60, on vit plutôt une période où on va avoir une hausse de chômage, une précarisation de certains quartiers. Donc la situation est loin d'être idéale, même si sur le papier, normalement...
Et on connaît la situation actuelle des Noirs américains, mais il y avait une forte aussi répression de la police américaine vis-à-vis de la population.
Il y a notamment des émeutes tous les étés, plus meurtrières les unes que les autres, dont notamment les fameuses émeutes de Détroit, dont vous avez peut-être entendu parler en 67, qui a fait, énormément morts. De morts, et voilà, beaucoup de blessés. Tous les étés ça s'embrase, tu rajoutes dessus
pardon, j'ai dit dans les années 50, c'est dans les années 60.
Oui, mais on a corrigé comme d'habitude,
que...
Sarah.
Que ces lois sont votées.
Et puis on est quand même donc en pleine, bon là il faudrait avoir les copains de Culture 2000 avec nous, mais on est quand même en pleine guerre froide, il y a la guerre du Vietnam, il y a le printemps de Prague à ce moment là juste avant les Jeux Olympiques, printemps de Prague en gros Prague, il y a un réformateur qui arrive qui dit bon on essaye de faire les choses un peu plus cool, etc. On essaye de faire la détente et un peu plus de fêtes, et il y a les tanks évidemment soviétiques qui arrivent en août 68, donc 2 mois avant les Jeux Olympiques.
Grosse année.
L'Afrique du Sud, et il y a aussi énormément d'assassinats de personnes symboliques.
Alors il se passe aussi des choses chez nous en 68.
Alors oui, en 68, oui. Oui, il y a un léger mai 68 en plus en France.
Tu nous racontes, Younes, c'était comment?
Avec Dany, on a fait le boulevard Saint-Germain. Et puis on a rencontré les flics, alors... On se dit, tiens,
la flic aille.
Ça castagne, on y va. Et voilà.
et parler de ce nombre incroyable des assassinats. Malcolm X assassiné le 21 décembre 1965, Martin Luther King assassiné en avril 68,
donc assez peu de temps avant les JO,
et Bob Kennedy, le frère d'eux, assassiné le 5 juin 68 aussi.
Assassiné aussi.
Le frère de l'autre assassiné aussi. Donc on est,
voilà. Bob Kennedy, pour la petite information, c'était quand même un politique très impliqué dans la lutte contre la ségrégation et contre la guerre du Vietnam aussi.
Il continue un peu le travail de son frère et en fait il était ministre de la Justice et il avait en face de lui Edgar Hoover qui était un peu remonté contre la famille Kennedy. Donc voilà, ma petite parenthèse.
Younes faisait partie de la CIA à l'époque, donc du coup il est très au courant.
J'ai des infos.
Alors, le 17 octobre 68, devant 400 millions de téléspectateurs, la course a lieu.
Et voilà, cette fois le départ était bon. Avec Bambu qui a pris, à mon sens, alors cette fois, un excellent départ, contrairement à ce qu'il avait fait sur 100 mètres. Et à la sortie du virage, les Américains parviennent néanmoins à dépasser le Français. Et c'est Tommy Smith qui se fait remonter maintenant par Carlos. Premier Carlos, deuxième Tommy Smith, troisième Norman, quatrième le Jamaïcain Robert, cinquième Bambu et sixième l'Allemand Eigener. Si vous avez entendu un bruit, ne vous inquiétez pas, c'est un cinéaste américain qui a tout simplement laissé tomber sa caméra sur ma tête pendant que j'écrivais la ligne droite où Carlos est sorti de façon absolument irrésistible pour remporter cette magnifique finale.
Alors le présentateur français de l'époque est totalement à la rue.
En même temps, il a la tête en sang, visiblement. Donc,
il est à l'arrache, déchet à l'arrache.
Il est complètement à l'arrache parce qu'il met John Carlos premier, oui. Alors que c'est Tommy Smith. Il met Tommy Smith deuxième. Alors
je crois qu'il parle de Jesse Owens, non, à un moment donné.
Alors que c'est Norman.
Il est focalisé sur le français qui va être à la rue. Donc,
non, je suis pas d'accord. Il finit cinquième.
Il finit cinquième.
Bambuc, oui, parce qu'on a un français dans l'épreuve de 100 mètres. On a un français qui est d'ailleurs, pour la petite histoire, le seul français à avoir un jour battu le record du monde de 100 mètres. Voilà. Bon. Voilà, vous prenez ça comme vous voulez.
Donc Tommy Smith, vainqueur du 200 mètres,
oui.
Malgré une blessure, hein, il s'était blessé lors des demi-finales, avec un chrono de 19,83 19 secondes.
19h83.
Ça, c'est la course Younes.
Ça, c'est quand je suis en forme.
Alors, 19,83 record du monde.
Record du monde, effectivement. Record du monde battu. L'Australien Peter Norman arrive second avec 20 secondes et 6 centièmes. On reviendra sur lui, on a des choses à dire sur lui. Et John Carlos, troisième, avec 20 secondes, 10 centièmes. Il faut savoir que une telle célérité. Je sais pas pourquoi je me disais ce mot. C'est Younes qui a parlé.
C'est parce que t'as copié-collé sur Wikipédia.
Ah bah, mais pour ça,
c'est pas moi, promis.
Ne sera dépassé qu'en 84 dans le cadre des Jeux Olympiques, hein, je précise.
Oui, donc c'est un record durable.
C'est un record durable, oui.
D'ailleurs, je viens de battre à l'instant le record. Oui. Mais je crois qu'il ne sera pas homologué.
Non, t'avais des.
Des chaussures à pointe.
Avec les clochettes.
Ça passe pas.
Et donc.
Vas-y.
Et donc, est-ce qu'on parle là ou après de ce qui se passe entre la fin de la course et le podium?
Oui, non, vas-y.
On peut
vas-y.
Y aller. Donc, ils vont se retrouver tous les deux, donc. Enfin, non, tous les trois premiers de la course. Et Tommy Smith et John Carlos sont en train de discuter et Peter Norman sent qu'il est en train de se passer quelque chose. Et en fait, ils vont donc... Je vais pas tout raconter parce qu'on reparlera de Peter Norman après.
On parlera de Norman après, ouais.
En tout cas, ils re-rentrent tous les... Enfin, ils viennent tous les trois sur le podium. Et là, une des premières choses, le premier et le troisième rentrent avec leurs chaussures à la main et avec des grandes chaussettes noires. Donc... Enfin, sans chaussures, ça va symboliser en fait la pauvreté des Américains. Ils ont des colliers de perles autour du cou. Ils ont le badge de l'Olympic Project, dont je ne.
For Human Rights.
For Human Rights, exactement. Et quand l'hymne va démarrer, ils vont chacun lever un poing avec un gant noir et baisser la tête.
Alors, il faut savoir qu'à l'origine, ils avaient prévu des gants pour ne pas serrer la main d'Avery Brundage, dont on va parler un petit peu.
Et il y en a un des deux qui a oublié sa paire de gants.
Il y en a un qui a oublié sa paire de gants.
Et c'est notamment Peter Norman qui leur a dit de partager en fait, les deux
exactement.
Gants.
Exactement.
Voilà, on va en parler. En tout cas, c'est l'heure du podium.
Premier et champion olympique, Tommy Smith, États-Unis, 19 secondes, 8 dixièmes.
alors ça donnera lieu à une photo qui sera
légendaire.
Légendaire.
Célèbre.
Qui mythique. Restera célèbre dans la légende.
Oui, 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 oui. Ah, oh, oui, bah, oui, la légende.
Ah, oui, oui, oui. L'histoire va la rendre célèbre finalement, mais on va voir que pendant les quelques années qui suivent, alors, elle va pas dire grand chose. Voilà, c'est nous qui allons la connaître après.
Juste un témoignage de Tommy Smith qui revient sur cet événement quelques années après. Il racontera que ce sera la minute 30 la plus longue de son existence, puisque l'hymne américain fait 1 minute 30, et qu'il avait peur d'entendre le sifflement d'une balle qui partirait des tribunes.
Mmh. Et en fait, le geste va provoquer d'abord le silence dans les tribunes. Alors que tout le monde est en train de chanter l'hymne, les gens vont s'arrêter surpris. Et ensuite, il va y avoir un certain nombre de sifflets et de huées dans le public. Et peut-être, on ne l'a pas dit tout à l'heure,
Je suis désolé, parce qu'en fait, on ne se rend pas tellement compte quand on voit la photo. Mais en fait, ça dure 1 minute 30, quoi. C'est-à-dire, pendant 1 minute 30, ils ont le poing levé, la tête baissée, et ils attendent la fin de l'hymne national, quoi. Alors qu'on a l'impression que sur la photo, que ça dure une seconde. Oui,
je crois qu'il a eu peur de prendre une balle, même.
Oui,
Tommy Smith.
Tu m'écoutes pas.
Pardon.
Bah, bravo.
On est où ici là? Qu'êtes-vous?
Et ce point ganté de noir, en fait, c'est l'un des symboles du Black Panther Party qui a été fondé en 66.
Interdit par la CIA.
Et qui est une organisation qui vise notamment faire en sorte d'éviter les violences policières dans les quartiers noirs. Mmh. Mais c'est une organisation qui va aussi avoir des actions assez musclées, plutôt armées. Après, elle est très large. Il y a un volet éducatif et il y a un... qui va être parfois...
Mais globalement, ils ont été considérés comme groupe terroriste par le FBI qu'ils prenaient la lutte armée et que ça arrangeait bien là aussi le FBI de régler les problèmes.
Oui, bien sûr.
C'était une organisation proche du marxisme.
Oui, marxiste.
Léniniste, maoïste. Ouais.
Soit le malin.
Et d'ailleurs, qui se dit au départ, pas seulement une association pour défendre les Noirs, mais
toutes les minorités,
toutes
en fait.
Les minorités et notamment les plus pauvres.
Alors, Black Panther Party, entre parenthèses, force c'est
on n'a rien compris.
Ah, l'alcool à 17h.
Voilà, ça vous... Et il y a un certain nombre de personnages importants de cette organisation qui vont mystérieusement être assassiné pendant quelques années, hein, bon, ou qui vont disparaître. Évidemment, le FBI est très puissant. Hein, donc... Et le lendemain, on revient un petit peu à Tommy Smith et John Carlos.
On n'a pas dit peut-être que sur le podium, Tommy Smith avait peur de se prendre une balle.
Alors, Avery Brundage, encore lui, c'est un petit peu le Don King finalement, du CEO, réclame à la délégation américaine d'exclure Smith et Carlos. Et dès le lendemain, bye bye. Yeah.
On va voir, il va y avoir pas mal, en fait, la délégation américaine, tout le monde n'est pas d'accord au début pour les exclure, il y en a qui les défendent, etc. Et le CEO va dire, soit ils virent, soit vous virez tous. Donc finalement, c'est même eux qui vont dire, on calme le jeu, on va partir. Et est-ce que c'est le moment de dire un petit mot d'Avery Brundage? Non.
Oui, si tu peux.
Non, peut-être quand même pour dire, mais ce qu'on a un peu dit d'ailleurs...
Attention à ce que tu dis.
Sur le football américain avant, c'est que, qui a le pouvoir, c'est des hommes blancs. C'est quelqu'un de très conservateur, c'est quelqu'un qui va surtout mettre en avant les Jeux Olympiques sont censés être des moments apolitiques, vous savez, c'était des moments de trêve quand ils ont été créés dans la Grèce antique, etc. Et donc lui, il met ça en avant, en fait, pour expliquer pourquoi il les exclut. Il dit, les Jeux Olympiques ne sont pas le moment de la revendication ou de quoi que ce soit de politique, ce n'est pas une tribune, ce n'est que du sport.
C'est pour ça que notamment en 1936, il avait refusé deux athlètes juifs à la demande d'Adolf Hitler de participer aux Jeux Olympiques. Donc voilà. C'est un mec vraiment très très bien.
C'est un mec assez cool,
c'est un mec intègre.
Oui, il avait demandé aussi aux juifs de donner un petit peu de sous quand même, parce que quand même vous avez de l'argent. Donc,
C'est vraiment quelqu'un de bien.
Oui, il voulait faire sa réparation de bateau, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Bah, pour aller prêcher.
Alors ça va pas très bien se passer dans les années qui suivent pour Tommy Smith et John Carlos.
Oui.
Voilà.
C'est un peu le calvaire à la façon de Mohamed Ali, en fait.
Eux, pour le coup, ils vont pas avoir de gros contrats avec Nike. Hein.
Non.
Leur carrière va être finie, déjà.
Oui, fin de l'histoire.
Ouais. Alors, ouais, tout de suite, donc expulsé des jeux, expulsé, comme tu l'as dit, expulsé à vie, hein, donc plus de compétitions sportives liées aux Jeux Olympiques. Menace de mort, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Très difficile de trouver un emploi pour eux ou leur famille derrière.
Avec leur identité. Ouais.
Je crois que Tommy Smith se fait même virer. Il est, je crois, laveur de voiture, un truc comme ça. Et en fait, il se fait juste virer de son travail parce qu'il a levé ce point et fait ce geste, en fait.
Même à l'armée, il ne retrouve pas du taf. Oui. Donc, c'est dire.
Tommy Smith devait être, devait avoir une carrière de, à la, dans la NFL, donc dans le championnat en tant que footballeur
américain
et le contrat est tout simplement oublié. Et voilà. Donc,
faut savoir qu'il avait déjà travaillé à l'armée au cours de ses études pour payer ses études.
Ouais.
Et l'un d'entre eux, enfin, c'est Smith, sa femme divorce avec lui.
Ouais. Oui, oui.
Et puis l'autre, encore plus triste, sa femme se suicide.
Ouais. C'est la femme de Carlos.
Ouais.
La femme de
en Carlos 77, ouais, je crois.
Enfin, ouais. Pour le coup, c'est vraiment des gens qui ont tout sacrifié pour
un
ce geste.
Geste.
Et Tommy Smith dira qu'il ne regrettera rien. Il ne regrette rien, jamais.
Faudra attendre les années 80 pour qu'il soit réhabilité. Et en 2016, le 30 septembre, en pleine affaire Kaepernick, ils sont reçus par Barack Obama.
Oui.
Évidemment, c'est très symbolique.
Et peut-être, on l'a pas dit d'ailleurs, pendant les Jeux Olympiques, leur geste, deux jours plus tard, c'est après.
Ouais, on va en parler sur la fin. Cries les étapes. On va parler. En revanche,
ton plan, Michael. Je veux pas dénoncer, mais.
C'est moi qui fais tout le boulot, tu vois. C'est toutes mes notes.
C'est pour ça que j'ai du mal à suivre depuis tout à l'heure. On parle jamais des bonnes choses. On comprend rien.
Alors, le Dijon Football Côte d'Or.
Le score.
Non, on va parler d'un personnage qui, en fait, est un peu invisible sur cette photographie, mais qu'en fait a eu un rôle important. C'est Peter Norman, athlète australien qui arrive donc deuxième de cette épreuve du 200 mètres. Alors déjà, juste sportivement, j'imagine que vous avez regardé ce 200 mètres.
Il fait la course de sa vie.
Il fait une course incroyable. Il faut savoir que dans le virage, Peter Norman est avant-dernier et il rattrape tout le monde et il coiffe au poteau Carlos sur la ligne d'arrivée. Bon, Tommy Smith, lui, il a 3 km d'avance. Hein. Il arrive, il se coule les bras, il fait du hula hoop. Avant de passer la ligne.
Bah, vous êtes où, les mecs?
Il finit mon nouveau look, ouais.
Non, et effectivement, ce qui est intéressant, c'est que cette photo, quand on la regarde, je pense, sans explication, on sent que
très sincèrement,
les deux personnes.
J'ai toujours pensé que Norman était troisième.
Alors,
oui, moi aussi.
Déjà, il était troisième et deux, qu'il s'en foutait. Et que moi, je me demandais même en voyant la photo, est-ce qu'il se rend compte de ce qui se passe derrière lui? Voilà, on n'a pas l'impression qu'il est impliqué.
Alors, ce qui est intéressant, c'est déjà qu'est-ce qui va se passer dans le vestiaire, justement, tu en as parlé tout à l'heure, avant l'entrée sur le podium.
Donc, lui, il va les réunir parce que, alors, je sais plus lequel des deux, Smith ou Carlos, mais a oublié sa paire de gants. Donc, déjà, il leur donne un petit peu cette astuce. En fait, il y a deux mains, les gars, donc vous pouvez peut-être partager la paire de gants.
Mettez une chaussette.
Heureusement qu'il était là. Et aussi, il va demander un badge. Alors on voit en tout petit sur la photographie un badge de l'Olympic j'ai oublié
Project
l'OPHR, tu dis OPHR, c'est
la SNCF visiblement selon Younes.
Ça va,
un badge Ouigo.
Non mais
l'OPH HLM.
En tout cas, il va tout de suite dire moi je veux vous soutenir et je veux montrer que je vous soutiens. Donc en effet, il va mettre ce badge. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'est Tommy Smith ou John Carlos qui dira plus tard je pensais lire la peur dans ses yeux et je n'ai vu que l'amour quand il a su ce qu'on allait faire.
Il a dit également il n'a pas levé son poing mais il nous a donné la main. En fait, ce qu'il faut savoir aussi sur cette photo, c'est que Norman il ne voit pas ce qui se passe derrière. Et il ne sait pas en fait ce qu'ils ont préparé. Et
il fait les oreilles de lapin.
La photo légendaire dans les livres d'école. Et il s'en rend compte, en fait, il se doute qu'il se passe quelque chose parce que le public. Enfin, le silence se fait, puis ensuite les huées arrivent. Donc il se dit, il se passe un truc, qu'est-ce qui se passe? Alors.
Peter Norman.
Il ne sera pas exclu, lui, du village olympique, tout de suite.
Non.
Je ne sais pas si on a dit, il est australien.
Oui, il faut
peut-être. Il est australien.
Mais... De dire,
et il avait peur de la balle. Mais...
c'est un militant chrétien dans son pays. Ses parents travaillent à l'armée du salut. Dans son pays, c'est l'Australie. Il y a une sorte d'apartheid aussi. Ce qui se passe avec les aborigènes, c'est quand même pas joli. Il y a des recensements. C'est les années où les aborigènes ont fait la grève, ont refusé de travailler s'ils n'avaient pas droit à plus de dignité. Mais il y a encore extrêmement de violence et lui, il est quand même très sensible à ça. Voilà, donc ça, c'est son histoire avant. C'est un sprinteur, un bon sprinteur, mais c'est pas non plus le roi du monde.
Non, il fait la course de sa vie.
C'est clairement la course de sa vie. C'est clairement le meilleur sprinter australien, mais c'est.
Il est quand même dans la dernière ligne droite, il faut savoir.
Il est proche du record du monde
de Usain Bolt. C'est quand même pas mal.
Mais non, c'est pas un si bon athlète que ça.
C'est par rapport à Tommy Smith, pas du tout la même chose.
C'est vrai.
En tout cas, il est effectivement pas exclu.
Non.
Mais sa carrière va quand même se finir finalement après ces JO. Il sera pas aux JO de 72. Oui,
oui. Alors qu'il a les scores, la course. Il a fait la course pour se qualifier.
Il fait les chronos, sans problème même.
Du coup, il redevient enseignant.
Oui.
Il retrouve son ancien travail.
mais qui va perdre derrière.
On sait pas trop pourquoi. Hein.
Et le plus triste, en fait, c'est que quand les JO ont lieu à Sydney, donc
en 2000,
32 ans après, quand même.
32 ans plus tard, son pays lui refuse encore.
Il n'est pas invité pour représenter l'Australie, et c'est les États-Unis pour le coup qui l'inviteront. Il a encore peut-être plus. Il était vraiment tout seul. Face à un pays, il a été considéré comme un paria en Australie. Sa famille l'a renié. Il a sombré dans l'alcoolisme.
En fait, il a subi des conséquences presque encore pires que Tommy Smith et John Carlos, puisque Tommy Smith et John Carlos ont quand même été réhabilités de leur vivant dans les années 80. Norman ne le sera jamais. Alors, il a eu l'occasion de se racheter et de sauver sa carrière en présentant des excuses publiques.
On lui a proposé de le faire, mais il a toujours refusé. Il a toujours continué à soutenir.
Smith et Carlos. En 2006,
il meurt d'une crise cardiaque.
Tommy Smith et John Carlos décident immédiatement de faire le voyage en Australie pour porter son cercueil.
C'est assez émouvant, la photo.
Enfin réunis, la photo est incroyable. Et c'est là que Tommy Smith aura cette phrase que tu nous as dit tout à l'heure, en disant: je pensais voir la peur dans ses yeux et
je n'ai vu que de l'amour.
C'est beau quand même.
C'est magnifique.
Non mais c'est vrai.
Bah oui, c'est beau.
Je trouve que son histoire, elle est émouvante.
Son histoire, elle est incroyable. Ah bah moi ça me donne envie de chialer à chaque fois que je pense.
Bah ouais, moi aussi.
C'est tellement beau qu'il y a une anecdote en fait maintenant au San Jose University. On a une statue qui représente en fait le podium qu'il y a là, mais il y a seulement Tommy Smith et John Carlos qui sont représentés. Et alors l'un des deux, je sais plus encore lequel, a été énervé qu'en fait Peter Norman ne figure pas sur cette statue. Il l'a appelé et Peter Norman lui a dit qu'il avait demandé à ne pas y figurer, pour que tous les visiteurs puissent se sentir à sa place lorsqu'il était sur le podium à ce moment-là.
Soutenir avec une cause, ouais.
Alors, entre 1968 et 2016, donc il y a quand même presque 50 ans qui vont se produire, donc entre Tommy Smith, John Carlos et Colin Kaepernick, c'est pas non plus le vide total, c'est pas le no man's land, et notamment quelques jours, 4 jours exactement après les poings levés gantés de Tommy Smith et John Carlos, il y a un autre podium qui va manifester ses revendications. C'est sur l'épreuve du 400 mètres.
Voilà, on retrouve plus les pages maintenant. Donc
ouais,
c'est
voilà.
400 mètres, oui, Lee Evans sur 400 mètres. Lee Evans qui est aussi dans la team
de la
San Jose Universidad. et donc champion de 400 mètres, qui va gagner le 400 mètres avec deux de ses partenaires américains. Donc c'est un triplé américain.
Larry James et Ron Freeman.
Exactement. Et donc triplé américain sur le 400 mètres. Et ils vont porter un béret. Noir comme les Black Panthers.
Voilà.
Ils vont pas lever le poing.
Encore une symbolique. Quand même.
Ils ne seront pas exclus.
Oui.
Peut-être parce qu'il y en a qui disent qu'ils ont quand même enlevé le béret au moment de l'hymne national. Donc ils ont quand même été un peu respectueux. D'autres disent qu'ils avaient surtout le 4x400 mètres à courir derrière et que les Américains voulaient leur médaille.
Et que en tout cas, ils ont gagné d'ailleurs. On a vérifié.
Ils ont gagné.
Ils ont été premiers sur le 4x400.
En tout cas, ils ne vont pas subir les conséquences. En fait, c'est comme toujours, c'est les précurseurs qui subissent les conséquences.
Bah, comme Kaepernick.
Comme Kaepernick, il y en a plein de joueurs qui ont continué derrière à mettre le genou à terre et qui eux n'ont pas perdu leur place en NFL.
D'autres exemples aussi, en 73 un athlète qui se couche sur la piste. Voilà.
Voilà.
Oui. C'est parce qu'il était
crevé. Il était crevé. Il était crevé.
Parce qu'il était fatigué.
Il avait un point de côté.
Mais il a été viré. Enfin bon, c'était au moment de l'hymne national. Il a pas eu de bol, le mec.
Bah ouais. Il avait bu trop vite
non,
de l'eau.
Ouais. C'est dans le championnat universitaire.
Oui. Ouais.
Et donc c'est un joueur qui va rester allongé par terre et en fait son équipe va être entièrement disqualifiée.
Oui, comme ça.
Voilà. Comme ça, c'est plus simple.
Il y a aussi un basketteur en 96, mars 1996.
Oui.
Abdul Raouf.
Exactement.
Ouais.
Mais Abdul Raouf
qui a refusé de se redresser lors de l'hymne national et parce qu'il ne croit pas en une idéologie nationaliste. Et il a obtenu quand même de la part des dirigeants de la NBA de pouvoir fermer les yeux pendant l'hymne et de prier en silence.
Oui. C'est un joueur des Denver Nuggets. Qui font une saison canon en NBA. Voilà, donc ça reste les deux gestes quand même. Ultra symbolique, c'est ceux de Tommy Smith, John Carlos et en fait Kaepernick.
Oui.
50 ans après, les autres sont passés un peu plus inaperçus quand même.
Oui.
Et ils sont assez peu nombreux.
Ce qui est triste, c'est de se dire que 50 ans après, pas grand chose a changé. Mmh. À part que Kaepernick, réussit quand même à signer des contrats avec Nike, etc. Donc, s'en sortira mieux que Tommy Smith et Carlos. Oui. Mais en tout cas, les revendications sont toujours les mêmes et les conséquences pour ceux qui commencent à dire quelque chose et à dénoncer sont toujours les mêmes aussi quand même, c'est des carrières qui se terminent.
Oui, tout simplement. Oui.
Voilà.
Alors, quid de ce qui se passe en France? Et vous allez avoir l'immense privilège, messieurs dames, d'entendre le jingle anti-doping.
J'étais sur la liste des joueurs qui passaient au contrôle anti-doping. Donc, il fallait faire la petite chose.
Et qui se colle au contrôle anti-doping?
Eh bien, c'est moi, figurez-vous.
Va chercher ta petite éprouvette, Olivier.
Oui, je relis mes notes et je cherche ma petite éprouvette. Alors, oui, je me suis un petit peu intéressé à ce qui se passait en France. Nous, on a la Marseillaise, la si douce, la si mélodieuse Marseillaise, celle qui a été inventée par Rouget de Lisle en 1792 pour l'armée du Rhin, une armée qui a bon dos. Donc, la Marseillaise, donc avec tous ces débats, hein, chant de guerre pour les uns, chant révolutionnaire qui inspire pour les autres. Voilà, donc cette Marseillaise qui doit être chantée notamment par les footballeurs avant chaque rencontre internationale, oui, et non pas nationale comme aux États-Unis. On va voir qu'il y a eu beaucoup de polémiques.
Division, et
que le premier qui a allumé la mèche, c'est évidemment Jean-Marie Le Pen. En 96, lors de l'Euro, du championnat d'Europe des Nations, qui va dire « Oh bah, je comprends pas, les étrangers ils chantent pas la Marseillaise !»
Tu le fais très bien.
J'ai fait un stage à FDAS, Jean-Marie Le Pen. Donc voilà, déjà première banderille, cette petite polémique qui va continuer dans les années 2000-2010, nos copines Ramayad et sa chef Roselyne Bachelot qui diront qu'il faut, enfin plus exactement Bachelot dira faut la chanter et Ramayad dira oh bof. Voilà. Donc
elles sont ministres des sports à l'époque.
Elles sont
secrétaires d'État.
Oui, enfin elles sont là quoi. Et donc chanter la Marseillaise ou pas, il y a beaucoup de joueurs qui ont décidé de ne pas la chanter pour des vraies raisons. Il y a notamment Christian Carambeu qui est un joueur champion du monde 1998, qui raconte qu'il ne la chantait pas parce que on a tellement obligé de le faire en Nouvelle-Calédonie que c'était impossible pour lui de connaissait pas les paroles. Je viens de l'avoir, pardon.
Et surtout, t'avais peur de la balle, hein, le sifflement de la balle.
donc il dit, mon père était professeur d'école, cela voulait tout dire pour lui, l'éducation nationale. Quand on parle de la Marseillaise, il faut savoir que dans toutes les écoles de Nouvelle-Calédonie, c'est une obligation de connaître la Marseillaise, la cartographie de la France et l'histoire de la France. Il fallait se mettre en colonne avant de rentrer dans l'école et saluer le drapeau. Est-ce qu'on fait ça en France?
Non.
Non. Donc ça, c'est Christian Carambeu. Il faut savoir que Benzema et tous les joueurs qu'on a catalogués comme des racailles en équipe de France ont été très vite fustigés. C'est pour toi ce mot, Younes.
Oui.
Parce qu'il ne chantait pas la Marseillaise. Et donc ça devient un débat un tout petit peu clivant et puant parce qu'on se rend compte que c'est les étrangers qui sont stigmatisés de ne pas chanter la Marseillaise. Sauf que quand on va un petit peu en arrière, on se rend compte que Platini ne la chantait pas, que Alain Giresse, qui est un très grand joueur à l'époque, ne la chantait pas, que Laurent Blanc ne la chantait pas, et Zinedine Zidane ne la chantait pas non plus. On n'aura jamais
rien. Il est arrivé d'ailleurs.
Non, mais il arrive, il est en retard. Il a dû accompagner les pompiers là-bas. Et ne la chantait pas non plus. Et à ces gens-là, on leur disait absolument rien. Platini, il va dire que c'était des mots guerriers qui refusaient de la chanter. Et quand c'est Benzema qui dit exactement la même chose, on dit qu'il n'aime pas la France et qu'il devrait retourner en Algérie. Donc voilà, c'est un petit peu clivant
d'ailleurs,
comme
Platini
débat.
Platini avait dit que de toute façon, il aurait pu même jouer pour l'Italie à une certaine époque quand il était à Nancy.
Oui,
qu'il avait
oui mais c'est passé crème parce qu'il met des coups francs et que c'est un joueur magique. Benzema, il marque pas pendant 10 matchs, donc forcément, il saute dessus. Et en plus, il représente un petit peu à ce moment-là l'équipe de France de Domenech, qui est un peu
la légendaire,
un peu puant.
De France.
Faut savoir que c'est un débat qui continue. Deschamps, lui, ils font ce qu'ils veulent. Mais dans les instances, on essaye quand même de pousser pour que chacun la chante et le mieux possible et le plus fort et à l'unisson.
Il faut voir aussi qu'il y avait un débat patriotique un peu puissant dans les médias autour des élections et tout ça, et donc forcément ça t'est.
Oui, mais ce n'est que de la récupération politique. L'histoire de la Marseillaise en France, ce n'est que de la récupération politique, et figurez-vous que ça va peut-être continuer car Laura Flessel, feu Laura Flessel, ministre des Sports, enfin feu parce qu'elle n'est plus ministre des Sports, mais elle existe encore, a émis l'idée qu'il fallait chanter maintenant la Marseillaise, y compris dans les matchs nationaux. Donc, par exemple, dans tous les matchs de championnat de France de Ligue 1 Conforama.
Ce qui est très bizarre, c'est ce que je disais, ce qui est très bizarre, parce qu'ils le font en hockey sur glace en championnat de France. C'est vrai que c'est très bizarre de voir les gens chanter la Marseillaise, surtout que c'est que les Canadiens sur la glace, alors du coup, ils connaissent même pas les paroles.
Non, mais voilà, donc tout ça pour dire que c'est que de la récupération politique. C'est pareil quand la Marseillaise est sifflée, elle a été sifflée par les Corses, elle a été sifflée lors de France-Algérie, France-Tunisie, par les Italiens. Il n'y a pas longtemps, la France-Italie en amical, la Marseillaise est sifflée et Buffon la chante, lui, en soutien pour montrer qu'il ne faut pas la siffler. Voilà, après, on peut aller très loin. Hein. C'est des adversaires, ils s'affrontent, ils se sifflent, c'est con. Mais la récupération politique là-dessus est fois 1000. Quoi.
Elle est toujours là. Alors, merci. Merci.
Oh, c'est un plaisir, tu sais.
Bah oui, c'est gentil. Alors, on a un petit truc à distribuer. En attendant, Younes, Olivier, est-ce que tu veux peut-être nous parler un petit peu de nos réseaux sociaux
Oui, vous pouvez, tant qu'on distribue. D'ailleurs, moi, je l'ai perdu. Je l'ai mis dans mes notes derrière. On va se la partager. Vous pouvez toujours liker nos réseaux sociaux. Nos réseaux sociaux qui sont Facebook, qui sont Instagram et qui sont Twitter. Là, déjà, que ça commence à plus m'écouter parce que vous lisez les paroles de la chanson. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Alors nous, on n'est pas comme deux heures de perdu, on fait pas de chapeau, voilà. Oui. Mais on peut piocher éventuellement dedans. On a eu un OMVA qu'on va peut-être traiter pas tout de suite, parce que comme je suis supporter de l'OM, voilà. Donc voilà, likez, partagez et suivez-nous. Et
proposez-nous des idées, il y a pas de problème, tout est bon à prendre.
Et toi ? Et alors, cet épisode, je crois, va sortir donc fin avril.
Le 24 avril.
Le 24 avril.
Tout à fait.
Donc avant ça, il va y avoir un live de 2 heures de perdu au Forum des Halles. Si vous n'avez pas encore votre place, vous pouvez aussi y aller.
Il reste des places.
C'est beaucoup moins cher qu'au Bataclan, n'hésitez pas.
Et vous pouvez voir le film avant. Et en plus, ce sera l'occasion pour vous de rencontrer les petits nouveaux. Il y aura notamment Eve, Léa, qui est brillante, c'est normal, c'est ma sœur. Et le petit Olivier sera là pour accompagner Greg, Julie et Mickaël. Et aussi le 19 mai au Théâtre Saint-Georges, nos copains de Culture 2000 vont faire un deuxième live. Et donc Léa de Culture 2000 qui est ici.
Ouais.
Voilà, donc
oui,
pareil,
oui.
Que ce soit vous ici dans cette salle ou vous qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les différents réseaux sociaux des différents podcasts.
Et voilà, et merci en tout cas à vous d'avoir été présents, merci à mes chers camarades
avec plaisir.
Et on se retrouve le mois prochain.
Et on se quitte
en musique, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau sujet sport.
On compte sur vous pour chanter, hein.
Ah ouais, nous laissez pas seuls.
Nous lâchez pas.
Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, malgré tout ce qu'on me dit. Je reste le poing levé, pour le meilleur comme le pire. Je suis métisse mais pas martyr, j'avance le cœur léger. Mais toujours le poing levé, fais la tête, mets le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Gré nos peines, nos différences, toutes ces injures incessantes, moi je lèverai le poing, encore plus haut. Pas comme toutes ces filles qui ont des visages pour des habits. Moi j'ai des formes et des rondeurs, ça sert à réchauffer le cœur. Fille d'un quartier populaire, j'ai appris à être fier. Bien plus d'amour que de misère, bien plus de haine que de pierre. Je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis, avec la force et le sourire, le poing levé vers l'avenir. La tête, lever le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne m'en laisse pas le choix, je suis l'as qui bat le roi. Viser la lune, ça ne fait pas peur, même à lune.
faux j'en ferai. J'en ai des appels et toujours le poing levé. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Mais à l'usure, je crois encore et encore des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le poing levé.
Allez,
viser la lune, ça ne fait pas peur. Même à l'usure, je crois encore et encore des sacrifices. S'il le faut, j'en ferai.